Bien malgré lui, dans l'actualité cette semaine sur la scène, on va dire, nationale, j'ai lu des commentaires dans la presse. Je sais que tu as fait des entrevues également dans certaines stations à Montréal notamment pour parler, commenter de la situation du Parti libéral du Québec. Écoute, il y a bien des gens qui sont surpris de ce qui se passe parce qu'habituellement au Parti libéral, quand il y a des problèmes, ça se règle à l'interne et non pas sur la place publique. Habituellement, on laissait ça plus au Parti québécois.
Oui.
Les guerres sur la place publique, il y en a eu à travers les années. Au Parti libéral, on se détachait toujours de ça et on se disait, s'il y a un problème, on va le régler à l'interne. Mais là, présentement, c'est complètement l'inverse qui se produit.
Et c'est, si tu veux mon avis, c'est désolant. C'est un peu la raison pour laquelle je fais ce genre d'entrevue-là. J'ai toujours, depuis 2018, observé une forme de devoir de réserve. Là. Je me suis retiré de ça. J'étais plus en politique. Je faisais de temps en temps un commentaire. Je fais une chronique, c'est bien certain. Mais de faire des entrevues sur un sujet qui touche mon parti, je faisais pas ça. Sauf que, depuis une semaine, comme bien des militants au Québec, je suis chagriné par cette affaire-là parce que ça n'a aucun sens. Puis, allons pas croire qu'au Parti libéral, il ne se faisait pas de débat avant. Tu sais, moi, j'ai participé à des caucus où il y avait 60-70 députés. Tu as des dualités naturelles qui s'installent. Tu sais, tu as des gens dans la métropole, dans la capitale, dans les régions. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est non? Est-ce que les gens ont des opinions divergentes? La réponse est oui. On brasse tout ça, puis à la fin du jour, on s'en va. C'est au caucus, ça se passe à huis clos. Pour un sujet actuellement qui touche des tâches parlementaires à l'Assemblée nationale, écoute, on se retrouve sur la place public avec ça. Je pense qu'il n'y a personne qui a l'air très, très intelligent là-dedans. C'est sûr que la presse fait ses choux gras de cette affaire-là, puis c'est normal, ces gens-là font leur travail, mais c'est pas sain pour le parti. Puis moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est d'entendre que des députés actuels qui siègent à l'Assemblée nationale, sous l'angle de l'anonymat, font toutes sortes de déclarations concernant la chef. Moi, je trouve que c'est tout à fait inconvenant. Je pense que tout le monde a un examen de conscience à faire à l'intérieur du caucus présentement. Puis ce qui est important, là, c'est pas ce bavardage inutile-là, c'est la reprise des travaux à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Tu sais, on pense que les gens semblent croire que tout va bien au Québec. Écoute, on vit dans un contexte inflationniste majeur. C'est le bordel dans les urgences. Puis même le ministre, cette semaine, avait de la misère à expliquer ce qu'il propose au niveau de son unité d'urgence ou je sais pas, sa cellule de crise, comme il l'appelle.
Ouais.
Il y a bien des problèmes, mais on a passé la semaine sur le dossier libéral. Je peux comprendre pourquoi. Mais là, ça va être important que tout le monde, là, à l'intérieur du caucus, se tourne vers le 29 novembre. C'est là que ça va commencer à l'Assemblée nationale. Et là, c'est le moment qui va être important.
Oui, c'est ça. Puis on le dit, Jean, au lendemain des élections, l'opposition à Québec n'a jamais été aussi faible. Il y a trois partis qui...
En termes de nombre.
En termes de nombre, exactement. Et là, bon, au Parti québécois, Québec solidaire, on se tiraille encore à savoir si on va siéger. Là, le Québec solidaire, on a décidé, les députés, de prêter serment finalement. Au Parti québécois, on ne le sait pas. Le Parti libéral, bon, avec ce qui se passe présentement, bon, les travaux en chambre n'ont pas encore recommencé, heureusement. Mais il y a quand même de quoi à s'inquiéter. Parce que dans une démocratie, quand l'opposition est faible, c'est pas bon pour personne, là.
Ben, c'est pas bon pour personne parce que l'opposition officielle fait partie de la grande institution de l'Assemblée nationale. Puis ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'il y a du talent autour de la table. Moi, je pense à un Marc Tanguay avec qui j'ai siégé, qui est un gars compétent. Je pense à un André Fortin. Je pense à une Philomena Rotti-Rotti qui est dans Jeunemans-Vigée, dans le coin de Montréal. Mais c'est une femme qui a un bon jugement. Ça va être important qu'on se raffermisse là. Il y a une conjoncture qui explique ça. T'sais, le résultat a été décevant pour tout le monde, hein, aussi. Du parti. Mais quand tantôt je te disais que le 29 novembre, c'est important, là, l'opposition officielle va se retrouver face à un gouvernement qui, lui, est composé de 80 députés. C'est en soi une grosse machine. T'sais, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille pas, là, je veux dire, c'est la situation. Alors, il va falloir que l'opposition officielle soit forte. Il y a d'autres oppositions, mais il y a une opposition officielle.
Ouais.
Et je regrette, il y a une job qui vient avec ça. Il y a un travail à faire. Et c'est pas dans le fait que... Tu sais, quand on est divisé dans un contexte comme celui-là, c'est pas une bonne chose. Et là, ben, est-ce que Mme Andelade va rester? Je la regarde aller. Je pense qu'elle est résolue à rester. Il y a une chose, par exemple, c'est qu'il va y avoir un vote de confiance. Ça, c'est prévu dans les statuts du parti. Ça va arriver dans les prochains mois parce que dans les statuts, ce qui est très clairement indiqué, c'est que lorsque le parti forme soit un gouvernement minoritaire ou se retrouve dans l'opposition, le chef doit mettre son leadership en jeu. Alors, le défi pour Dominique Andelade va être là.
Est-ce qu'elle peut survivre à un vote de confiance?
Écoute, tout va dépendre de sa performance à partir du 29. Là, on ne peut pas dire qu'elle est nouvelle dans le fauteuil de chef de l'opposition officielle. C'est le rôle qu'elle avait avant l'élection. C'est le rôle qu'elle a aujourd'hui. Il va falloir qu'elle et son parti, ses députés, soient excessivement performants pour changer la direction du vent. Là. Alors, on est dans cette situation-là. Puis lorsque va arriver le vote de confiance, tu sais, on ne veut pas juste faire les séries en politique. Là, on veut gagner la coupe.
Ouais.
C'est ça. Puis on n'est pas aux Olympiques. Là. L'important, ce n'est pas de participer. Tu veux gagner. Puis un vote de confiance, tu as en deçà de 90%. Tu sais, on l'a vu dans l'histoire, tu sais, dans d'autres partis. Bernard Landry, c'était quand même pas rien. Mais quand Bernard Landry a obtenu un score de 76, séance étonnante, là, Malu Militari, il est parti. Lucien Bouchard a eu un résultat semblable, puis pourtant, Lucien Bouchard, c'est un grand politicien au Québec. Dans les mois qui ont suivi, il a tiré sa révérence. Et à l'intérieur du Parti libéral, de mon propre parti, il y a eu M. Johnson, avec qui je suis encore en contact, puis qui est un homme exceptionnel, mais il y a eu plus de 80%. Tu sais, au cégep, il te faut 60%. Lui, il obtient plus de 80%, puis sur le coup, il est heureux, mais en même temps, quand tu as moins de 90%, ça fait du monde dans les corridors qui bavardent.
Oui.
Des gens qui n'ont pas supporté ton leadership, mais qui se retrouvent en petits groupes puis qui parlent. Puis ça alimente toujours des braises de contestation. Alors, le défi pour elle, c'est d'obtenir un bon score au vote de confiance si elle décide de rester. Et là où ça devient difficile, c'est que moi, j'ai vécu ça aux côtés de M. Charest. Je suis devenu président au moment de son vote de confiance. Et dans son cas à lui, il était minoritaire comme gouvernement, mais il y avait un bon nombre de députés autour de la table qui sont devenus en quelque sorte ses haut-parleurs dans les régions. Tu sais, ces gens-là qui étaient solidaires ont amené un appui massif à M. Charest. Et M. Charest avait des antennes politiques partout dans les comtés, même les comtés qu'il n'avait pas à l'Assemblée nationale comme chef. Alors, ça a donné un résultat de 96-97%. Alors, écoute, à 96-97% politique, tu peux quasiment dire que tu as l'unanimité.
Oui, puis j'ai envie de te poser la question parce que tu l'as vécu, tu as souvent été appelé à voter, justement. Comment ça fonctionne? Est-ce que, tu sais, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, vote de confiance, est-ce que ce sont seulement les députés qui votent? Est-ce
non,
que c'est tous ceux qui ont une carte de membre?
C'est les militants.
Et ça se fait comment? J'imagine que...
Ben, ça se fait à l'occasion d'un rassemblement, d'un congrès. Habituellement, c'est un congrès des membres et les gens s'expriment. Quelle forme ça va prendre? Est-ce que ce sera virtuel? Je ne sais pas. Je ne suis pas près de l'organisation présentement, là. Mais ça va se faire. Et c'est les membres qui votent. C'est les membres qui décident. Donc, si tu n'as pas d'organisation, si tu n'as pas de gens sur le terrain qui parlent en ta faveur, qui t'aident, c'est comme ça que ça fonctionne, la politique.
Oui. Et si Jean Damour doit voter demain matin, est-ce qu'il souhaite que Dominique Anglade reste ou
Premièrement, c'est une question hypothétique parce qu'on ne vote pas demain matin.
Ouais.
Moi, tout dépendra des prochains mois. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont appuyée. Elle a été élue sans opposition, mais avant que... au début, là, il y avait un adversaire à Mme Anglade. Il s'appelait Alexandre Cusson. Il s'appelle encore, là, il n'est pas mort.
Ouais.
Alexandre Cusson, qui est un ancien maire à Sherbrooke, qui avait démissionné. Mais
à Drummondville?
C'est à Drummondville? Non, je crois que c'est Sherbrooke.
Sherbrooke, ça se peut.
Dans ce coin-là. Il s'est retiré. Alors moi, avant qu'il se retire, j'avais quand même pris position pour Dominique Anglade. Puis, soit dit en passant, là, c'est une femme que je considère beaucoup. Tu as remarqué, Kevin, que j'en dis pas de mal. C'est une femme extraordinairement intelligente, extraordinairement compétente. Mais elle se retrouve dans une situation où elle a provoqué des choses elle-même par ses décisions comme chef. Et dans la vie, il faut apprendre de ses erreurs. Et elle avait déjà vécu ça avec Marie Montpetit il y a à peu près un an, jour pour jour. Moi, je me souviens très bien de l'histoire Marie Montpetit. Elle était à Rivière-du-Loup la veille de son congédiement du caucus. On était avec un petit groupe de 7-8 personnes. On a soupé ensemble à
On lui avait parlé même.
Ben oui, puis elle était ici, puis... En ce qui me concerne, là, les contacts que j'ai eus avec elle pendant les années où on a siégé ensemble, c'est une femme remarquable. Tu sais, elle a été ministre, elle a été performante dans son ministère. On n'a jamais compris. Alors, Mme Anglade a payé le prix à ce moment-là. Ça a été difficilement accepté par les militants il y a un an. On aurait pensé qu'une telle situation ne se reproduirait pas au sein du Parti libéral. Malheureusement, c'est la situation avec Mme Nichols.
Oui, mais c'est fou à quel point, Jean, la ligne est mince entre vouloir imposer ton autorité comme chef et dépasser la ligne et froisser des gens qui sont des militants de longue date, qui pensaient avoir un statut X au sein du parti. La ligne est mince.
Je pense que ça va au-delà d'imposer son autorité.
Ouais.
Je crois, ben, j'ai parlé à Mme Anglade, honnêtement, mais on n'a pas été jusque-là dans la conversation. Je pense que ça va plus loin que ça. Tu sais, quand tu es un patron d'entreprise, tu mets ton monde à la bonne place en fonction de ce que tu penses puis en fonction de tes orientations. Je pense que c'est simplement ça que Mme Anglade a voulu faire. sans évaluer nécessairement les conséquences après. Pour avoir assisté aussi, lorsque Jacques Chagnon a été nommé président de l'Assemblée nationale, je faisais partie du caucus à ce moment-là. Yvon Vallière, son prédécesseur, vient de quitter. On doit se choisir un président. On forme le gouvernement et on doit suggérer aux partis d'opposition une candidature. On tient compte à ce moment-là de l'ancienneté. Là, on ne parle pas du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale, mais on parle des vice-présidents. Fait qu'on n'est pas loin. C'est le genre de tâche qui est confiée à des gens d'abord qui ont de l'expérience. En ce sens, Marie-Claude Nicole, c'est quand même quelques années de vie de députée dans le corps. C'est une avocate qui s'exprime bien, qui a été maire, mairesse, qui a été préfet. On aurait pu croire que ça aurait été un excellent choix. Tu sais, elle a un peu un profil de Maryse Gaudreau, députée de Hull, qui était là avant sa défaite. Moi, honnêtement, j'aurais trouvé que ça aurait été un bon choix. Alors, la personne qui a été désignée est quelqu'un qui n'a pas l'expérience de Marie-Claude Nichols. Et tu peux pas mettre quelqu'un à la porte parce que quelqu'un a des aspirations. L'ambition, ça fait partie de la vie. Ça. Puis s'il y a une place où l'ambition est présente...
En politique, t'en veux des gens ambitieux.
La plupart des députés, là, ils vont te dire le contraire, mais je te dirais que sur 125 députés, il y en a 125 qui ont un égo assez fort. Ouais. Alors, tout le monde veut... Puis tu sais, je te disais dans cette chronique-ci, il y a une couple de semaines, que tout le monde pense qu'il peut être ministre. Tu sais, il y a 90 députés là, à la CAQ présentement, puis au moment de la nomination du Conseil des ministres, tout le monde pensait qu'il y avait la capacité d'eux, même si on sait très bien que ce n'est pas le cas. Alors, c'est un peu la même chose dans les autres partis. C'est légitime, les gens veulent prendre de la place, veulent se faire valoir. Puis quand tu as de la place au Parlement, les gens de ton comté l'apprécient, tes électeurs dans ta propre circonscription. Moi, je me rappelle quand j'ai été nommé, que ce soit adjoint parlementaire dans le temps de Nathalie Normandeau, les gens m'en parlaient beaucoup. Quand j'ai été nommé ministre, il y avait une belle fierté, je pense.
Ben oui.
Alors que Mme Nichols aspire à cette fonction-là, c'est tout à fait légitime. Puis moi, sincèrement, je pense qu'elle avait et qu'elle a toutes les aptitudes pour occuper le fauteuil sur le trône présidentiel à l'Assemblée nationale. Mais Mme Andelade avait peut-être d'autres prérogatives, d'autres pensées. Ça lui appartient, puis il faut respecter ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est le spectacle gratuit. Cette forme de sideshow-là qui donne rien à personne, très certainement pas au parti, très certainement pas à Mme Andelade, dans un contexte, une conjoncture qu'on peut comprendre, mais à quelques jours de la reprise des travaux parlementaires, là, à l'Assemblée nationale, ça fait 5 mois qu'on n'a pas siégé. Alors, ça va faire 5 mois ces jours-ci qu'on n'a pas siégé. Alors, c'est le temps qu'on retrousse ses manches, qu'on s'attarde aux priorités au Québec plutôt que... Écoute, la question de la sermentation, ça a été le lot des 3 dernières semaines. Là, ça va se régler. Le président a mis son pied à terre, je pense qu'il a bien fait. Bon, ça, c'est réglé. Mais ce niaisage-là, là, tu sais, on parle d'immigration, là, c'est une forme de bordel depuis hier encore.
Ben oui.
Tu sais, on est encore confronté là, à une chicane Canada-Québec tout à fait inutile.
Et pendant ce temps-là, on
ne
parle pas des vrais enjeux.
Ben voilà. Voilà. Tu sais, on est à l'aube probablement d'une récession. Moi, je ne suis pas économiste, mais les économistes s'entendent pour dire que ça va arriver. Alors, on doit changer là, la couleur de l'atmosphère un petit peu, puis faire en sorte qu'on s'attarde aux véritables enjeux.
Merci beaucoup, Jean. Toujours très éclairant. Et M. Cousson était maire de Drummondville.
Bon, ben t'avais raison et j'avais tort.
Ben écoute, c'est
pas... Admettre qu'on a tort, écoute, je pense que c'est correct aussi. Là.
Ben ma mémoire, parce que j'ai habité à Sherbrooke pendant un certain temps, puis j'avais pas de souvenir de M. Cousson comme maire de Sherbrooke.
Ouais, ben en le disant tantôt, j'ai repensé à Jean Perrault puis aux gens après. T'as raison, bien content de te l'avouer.
Hey, merci beaucoup, Jean.
Bonne journée.
Bye-bye. Donc, Jean D'Amour qui était là, toujours très éclairant, toujours très intéressant. Parlait de ce qui se passe présentement au sein du Parti libéral du Québec.